السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, aujourd'hui vendredi, nous sommes le 25 du mois de Dhul-Qa'da. Et nous savons qu'après, dans 5 jours, nous allons, Inch'Allah, entrer dans le mois béni. C'est un mois béni de Dhul-Hijja. Et nous savons tous, mes chers frères, que les jours de l'année les plus aimés par Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est spécialement ces 10 jours, c'est-à-dire la première décade de Dhul-Hijja. Dans un hadith de d'une version de Ka'b, radiallahu anhu, il dit que parmi toutes les périodes de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les mois sacrés, ce qu'on appelle Al-Ashhurul Hurum. Et parmi les mois sacrés, Allah ta'ala a choisi le mois de Dhul-Hijja. Et dans le mois de Dhul-Hijja, Allah ta'ala préfère les 10 premiers jours, c'est-à-dire la première décade de Dhul-Hijja. Nous savons que dans un hadith de Jabir, radiallahu anhu, le Prophète sallam a dit que les jours les meilleurs des jours dans ce dunya, ce sont les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. C'est la première décade de Dhul-Hijja. Également, certains ulamas sont d'avis que les 10 jours de Dhul-Hijja valent mieux que la dernière décade du mois de Ramadan. C'est l'opinion de certains ulamas. Parce que selon eux, la dernière décade du Ramadan se distingue uniquement par la nuit du destin. Tandis que les 10 jours de Dhul-Hijja sont équivalents en termes de vertu, tant les matinées que les soirées. Et nous savons également, c'est un hadith très connu d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, que les actions les plus appréciées par Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont celles qui sont accomplies durant les premiers jours, la première décade de Dhul-Hijja. Alors les actions que le musulman se doit de faire durant cette première décade, c'est dans la mesure du possible jeûner le 9e, pour ceux qui ne vont pas au pèlerinage, qui restent ici, jeûner Yawm Arafah. Également, Imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, il aimait passer toutes les nuits de la première décade dans le tahajjud. C'était l'habitude de Saïd ibn Jubair, radiallahu anhu. Également, ce qu'il faut faire, c'est le maximum de dhikrullah. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. C'est trois dhikars. Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mes chers frères, ces vertus de Dhul-Hijja, vous les connaissez déjà. Tous les ans, à cette période de l'année, lorsque nous approchons la fin de Dhul-Qa'da, nous répétons la même leçon. Nous répétons quelles sont les vertus de Dhul-Hijja, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle récompense on aura. C'est pareil de Sha'ban. À la fin du mois de Sha'ban, on faisait le même discours, mes chers frères, le Ramadan approche, quelles sont les récompenses du Ramadan, qu'est-ce qu'il faudra faire, qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous accordera. Également, quand le Ashura arrivera, etc., etc. Chaque fois qu'il y a une période importante dans le calendrier islamique, nous faisons le rappel. Et les musallis, les musulmans, répondent présents. Le Ramadan, on est présent. Le Ashura, on est présent. Les 10 premiers jours de Dhul-Hijja, nous sommes présents. Donc, les discours, nous les faisons en quantité. Et ce genre de période propice au culte, au ibadat, s'enchaîne année après année. Mais ce qu'il faut bien comprendre, mes chers frères, c'est que ces périodes fortes, ces moments importants du calendrier islamique, ne sont pas des objectifs. Ce n'est pas une fin en soi que de faire le culte d'Allah durant le mois de Ramadan. Ce n'est pas l'objectif de la vie du musulman que d'être régulier dans ses a'mal pendant la première décade du mois de Dhul-Hijja. Parce que le problème, c'est que ces moments importants, nous ne les abordons pas de la bonne façon. Nous ne les abordons pas de la bonne façon. Nous les vivons comme des rituels, comme si c'était un héritage culturel. Comme dans d'autres religions, ils ont d'autres fêtes à d'autres périodes du calendrier. Nous, on a Ramadan, nous, on a Eid, nous, on a Bakrid, nous, on a 10 Dhul-Hijja, nous, on a Muharram, nous, on a 6 Shawwal. D'accord ? Certes, ce sont des moments importants, on ne dit pas le contraire. Mais, mes chers frères, il faut aller au-delà du symbolisme. Il faut aller au-delà du rituel. Le musulman intelligent, c'est celui qui recherche quel est le ruh, quelle est l'âme qu'il y a dans chaque action, quel est le but recherché, quel est l'effet souhaité à travers chaque action, comment, en résumé, comment cette action va me faire progresser dans mon cheminement de la foi? Comment cette action va me rapprocher d'Allah? Comment cette action pourra me faire parvenir au taqwa, me faire arriver au plus haut grade de la foi qui est le ihsan? Malheureusement, de nos jours, nous ne faisons que suivre l'effet de masse. Le Ramadan, toute la masjid se remplit, nous, on vient remplir également. Mais nous n'allons pas au fond des choses pour rechercher qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi à travers ses ibadat. Un exemple concret, et le problème c'est quoi? C'est qu'à travers ces actions, nous sommes présents dans ces moments importants, mais nous n'avons pas saisi un mot. Ce mot c'est quoi? C'est le sens profond de Al-Istislam. C'est quoi Al-Istislam? La soumission à Allah. Le musulman, c'est celui qui est soumis à Allah. Ce n'est pas uniquement celui qui fait Ramadan, qui fait le Hajj et qui répond présent dans tel moment de l'année. Un exemple, je le disais tout à l'heure, un exemple concret, très proche malheureusement. Regardez le Ramadan. Depuis toujours, arrivé le Ramadan, la masjid se remplit. Et nous sommes là. Nous faisons Saum, le Rosa, nous faisons Tarawih, nous faisons ce qu'il faut, Alhamdulillah. Mais regardez, une fois qu'on trouve la lune de Shawwal, la lune de Eid, ben, il y a un retour à la normale, ou plutôt un retour à la normale. La masjid va se vider complètement, comme elle s'était remplie lorsqu'on a vu la lune du Ramadan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'allons pas au fond des choses. Nous nous limitons à l'effet de masse. Ramadan, c'est la période de ibadat. Mais quels sont les effets? Qu'est-ce que nous retrouvons après ce Ramadan dans notre vie? Comment ce Ramadan m'a rapproché d'Allah? Comment ce Ramadan m'a permis de perfectionner ma salade, de faire plus de bonnes actions, de rester plus éloigné du haram? C'est ça le musulman intelligent, c'est le musulman qui a la clairvoyance, qui comprend le sens de la soumission, le sens de la taqwa à travers les actes d'adoration. Nous ne prendrons qu'un ou deux exemples, un exemple qui est plus proche de nous. Regardez le qurbani qui arrive, le udhiya. Ce qui nous intéresse dans le bakri, comme on dit, c'est l'achat de l'animal. Et pour certains, avoir le plus gros animal. Bon, ce n'est pas une généralité, on ne va pas être trop méchant non plus. Mais bon, le plus important pour nous, c'est l'acheter, notre conception. Regardez la différence qu'il y a entre conception du ribadat. C'est un peu complexe, hein, il faut bien suivre. La différence qu'il y a entre ma vision du ribadat et le but du ribadat. Ce n'est pas la même chose. Ma conception du bakri, c'est quoi? Je vais à la plaine des caves, je vais au tampon, je vais je ne sais où. J'achète l'animal. Première étape. Deuxième étape, je fais livrer l'animal, je le nourris, d'accord? Le jour du Bakrid, on fait le sacrifice, ça c'est la troisième étape. Quatrième étape, on donnera à la famille et on distribuera aux nécessiteux en sadaqa. L'objectif est atteint, c'est-à-dire, j'ai fait mon qurbani. Allah Ta'ala, il voit, mon devoir est rempli face à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais où est le piège de Shaitan? Le piège de Shaitan, c'est quoi? J'ai dans mon cœur le sentiment du devoir accompli. J'ai fait ce qui était requis, mais malheureusement, je n'ai pas atteint l'objectif qu'il y avait à travers le ibadat. Je n'ai même pas essayé de comprendre c'est quoi ce qurbani et qu'est-ce qu'Allah Ta'ala attend de moi à travers ce qurbani. Et le rouh du qurbani, c'est quoi? L'âme, comme il y a dans chaque action, on n'est pas des automates. Nous faisons namaz comme ça, nous jeûnons, nous ne mangeons pas, nous donnons zakat. On n'est pas des automates, on obéit à des choses sans comprendre. Le musulman clairvoyant, il sait qu'est-ce qu'il faut retirer comme enseignement dans chaque ibadat. Et dans le qurbani, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on retient? Le sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, qui a eu un fils à un âge avancé, et qu'Allah Ta'ala demande à Ibrahim alayhi salam, sacrifie ce que tu aimes le plus pour moi. Donnez pour Allah ce que j'aime. Faire passer l'ordre d'Allah, la soumission à Allah, avant ce qu'il y a dans mon cœur, avant ce que j'aime. Maintenant, si moi, en tant que musulman, j'ai acheté mon bœuf 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, je ne sais pas, pour Qurbani, et le lendemain, je suis prêt à retourner dans mes péchés, je travaille de la même façon, je m'habille de la même façon, ma femme, ma fille s'habille de la même façon, je ne viens pas salat comme je ne venais pas Fajr avant, ça veut dire que j'ai fait mon Qurbani, mais je n'ai pas compris qu'Allah Ta'ala attend de moi, fais passer mon ordre avant ton sommeil, avant l'appât du gain, avant ton attachement pour les biens de ce monde. C'est ça le rouh du qurbani, mes chers frères. Un autre exemple, notre relation avec le Coran. Pour moi, musulman réunionnais, ma conception du Coran, c'est quoi? J'apprends quand je suis petit, j'apprends le lire, je maîtrise le tajwid, au meilleur des cas, je deviens hafid al-Qur'an, au meilleur des cas, je me fais taravi en ville, ah, ça c'est la, le summum ça, d'accord? Au meilleur des cas, je remporte un concours Qur'an, et quand je lis, je réveille les foules, les gens disent, ah c'est un qari, l'objectif est atteint, la boucle est bouclée. Mes chers frères, le piège de Shaitan c'est quoi? Je ne vais pas au fond des choses. Je ne suis pas comme un sahaba lorsqu'il lit le Coran. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِمَانًا. Ma foi doit augmenter lorsque je lis le Coran. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Je dois être capable de méditer sur l'essence profonde du Coran. Je passe à côté l'objectif principal, الْعَمَلُ بِهِ. Mettre en pratique les ordres et les interdits du Coran. Et un exemple, je vais être méchant, mais parfois il faut savoir l'être. Il y a 3 mois, on reçoit un grand qari, Abdurrahman Saadian. Il fait une lecture exceptionnelle. Masjid plein, la mairie est plein. Les gens, ils sont là, il y a une khushu', une dévotion pour la lecture du Coran. Dites-moi, où est l'effet de cette lecture? Est-ce qu'après son passage, Fajr, dimanche, la masjid est pleine? Non. Est-ce que dans mon... Peut-être pour vous, je ne sais pas. Mais est-ce que dans ma relation avec Allah, je me suis rapproché d'Allah? Je me suis éloigné des péchés. Ça veut dire que nous percevons ce genre de manifestation comme un spectacle. C'est un show, un grand qari. On va crier Allah, tout ça. Mais où est la compréhension du Coran? Où est la crainte d'Allah? Où est le sens de al-istislamu lillah? Ma soumission à Allah. Je vis pour Allah. Je meurs pour Allah. Je donne pour Allah. Je prends si Allah m'autorise de prendre. Je ne prends pas si Allah m'empêche de prendre. Ma vie, c'est pour Allah. Rien de ce dunya ne m'intéresse à part le contentement d'Allah. Ça c'est al-istislamu lillah. Si ce ruh, cette âme commune qu'il y a dans chaque acte d'adoration, je ne l'ai pas saisi, je pourrais faire des montagnes de bonnes actions, je n'atteindrai pas l'objectif. Et un exemple malheureux, regardez aujourd'hui vendredi, salat al-jum'a, c'est peut-être quelque chose que certains n'aiment pas entendre, mais on le dit. Regardez combien de personnes ont quitté leur domicile, ils ont sacrifié leur temps. Leur pause déjeuner. Ils vont aller au travail sans avoir pu se reposer. Ils raccourcissent le temps de leur pause, etc., etc. Ils viennent à la masjid. Certains habitent loin, ils viennent. Mais combien parmi les moussallis, durant le khutbah, ils vont rester sur le banc en train de parler? Ça, c'est dommage, ça. C'est-à-dire que tout le sacrifice qu'il a fait pour venir à la masjid le jour de Jum'a, il va le vendanger. Parce que Hadith dit bien que celui qui parle dans le khutbah, ou qui joue avec son tasbih, avec son bonnet, ou avec sa barbe, il n'y a plus de Jum'a pour lui. Wallah musta'an. Des gens qui quittent je ne sais quel quartier, qui viennent et qui s'assoient sur le haz, qui parlent ou sur le banc, ils ont fait l'effort, mais ne comprennent pas qu'est-ce que je devais obtenir de ce Jum'a. Quels sont les rahmas qui descendent le vendredi? Comment les anges sont présents? Qu'est-ce qu'Allah me donne le vendredi? Qu'est-ce que j'ai en écoutant le khutbah avec attention, en faisant la salat avec dévotion, en demandant à Allah avec le cœur? Mais non, au lieu de ça, j'ai rencontré, c'était un endroit où je rencontre mes amis, et je ressors de la masjid, malheureusement, sans obtenir quoi que ce soit. Sans remplir mon objectif à travers la salat al-jum'a. Donc, mes chers frères, le but, ce n'est pas de dresser un tableau noir. Le but, ce n'est pas de dire qu'on est complètement à côté de la plaque. C'est assez cru tout ce qu'on a dit. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de comprendre que nous sommes loin de l'objectif. Même si en apparence, nous sommes au top dans le culte. Même si en apparence, on a fait un chemin exceptionnel. Mais mes chers frères, nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour nous rapprocher d'Allah. Et ce chemin, ce n'est pas uniquement, ou alors ce n'est pas forcément, en faisant beaucoup de ibadat. Il y a un travail à faire sur mon cœur, sur mon iman, sur mon approche du ibadat, sur ma compréhension du sens de la taqwa. Je crains Allah. C'est quoi craindre Allah? C'est pas que faire namaz. Je crains Allah quand je fais les actions qu'Allah me demande et que, virgule, en même temps, je m'éloigne de tout ce qu'Allah a rendu haram. C'est ça la taqwa. An taj'ala baynaka wa bayna rabbillahi hijab. Je mets un pardon. Tant que ce mot existera encore, je mets un pardon entre moi et la colère d'Allah. Ce n'est pas juste faire beaucoup de bonnes actions, c'est également m'éloigner de tout ce qu'Allah rend du haram. Et s'éloigner du haram, c'est plus difficile que de faire des bonnes actions. La masjid est plein, mais à l'extérieur de la masjid, est-ce que la même quantité de personnes est capable de contrôler son regard, contrôler ses oreilles, contrôler sa langue, contrôler ce que je vais gagner avec mes mains, halal ou pas halal, etc. etc. Ça, c'est le ruh de tous les ibadat. Alors, pour résumer, dans les 7 minutes qui nous restent, qu'est-ce qu'on va dire? Mais maintenant, on a compris comment parfois on se trompe aisément d'objectif et comment Shaitan nous amène loin.
Pochettin, on a le sentiment du devoir accompli, mais il sait que c'est une maison vide. C'est une carapace sous laquelle il n'y a pas grand-chose. Et avec quelques péchés, Shaitan peut balayer le peu de bonnes actions que j'ai cumulées. Comme je n'ai pas eu l'âme des bonnes actions, l'effet souhaité ne reste pas dans mon cœur. En 5 minutes, c'est quoi maintenant le vrai musulman? C'est quoi le musulman éclairé? Après qu'on explique c'est quoi le musulman qui pratique de manière rituelle ou selon la routine. Un bon musulman, c'est celui qui, dans sa vie, son but c'est de se rapprocher d'Allah. Comment? Par les bonnes actions. On a dit les bonnes actions tout à l'heure, mais quel genre de bonnes actions? Des actions que je fais tous les jours. Des actions que je fais avec sincérité. Mon cœur brûle d'amour pour Allah dans mes actions. Quand je pose mon front sur le sijda, je sais que je suis devant Allah. Mon cœur est attaché avec Allah. Et quand le Ramadan arrive, je multiplie la quantité de ces actions. Lorsque je vais à Makkah, Madina, je vais multiplier la quantité de ces actions. Et lorsque je reviens, ou lorsque le Ramadan est terminé, j'ai istiqama, la constance. Jamais je n'abandonne ma salat ou mes actions, parce que sinon ce n'est pas une action comme Allah l'a demandé. Je fais des actions, mais je sais pourquoi je le fais. Ce n'est pas parce que papa, à un moment où Moulissa me l'a dit de faire, je fais des actions parce que je sais que demain, Malik al-Maut prend mon âme. Je sais que demain, je serai dans la tombe et c'est mes actions qui sont avec moi. Ramadan, c'est fini ça. 10 Dhul Hijja, c'est fini ça. C'est pas ça le but. C'est ma vie. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Jusqu'à la mort, je fais les ibadat d'Allah. J'adore Allah, je fais des bonnes actions. Pourquoi? Je sais parce que là-dessous, il y a l'étape de la tombe. Je sais parce qu'un jour, je serai devant le tribunal d'Allah où j'aurai à répondre de toutes les actions que j'ai faites. C'est pour ça que le musulman qui accomplit les actions, celui qui s'est fait arrobtou, un lien entre les actions et l'au-delà. Ce n'est pas les actions pour les actions. Ce n'est pas le Ramadan pour le Ramadan. Ce n'est pas Dhul Hijja pour le Dhul Hijja. Ce n'est pas Kurbani parce qu'il faut faire. Là, wallah, je fais les actions qu'Allah me demande, sachant qu'est-ce qu'il y a après. La relation qu'il y a entre les actions de ce dunya et ce qui va se passer après la mort, où je vais retrouver la totalité de ces actions. Si j'ai intégré le sens réel de ces actions, dans ce cas, mes chers frères, je ne m'arrêterai pas de faire ces actions. Parce que mon but, c'est là-haut, ce n'est pas ce que je suis en train de vivre 30 jours ou 10 jours, ou quand le bébé, l'animal sera par terre. Quand j'ai compris le sens des actions, je vais m'appliquer, je vais développer ma sincérité. Mon cœur brûlera d'amour pour Allah, parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce qu'Allah m'a promis pour cette action. Ça, c'est un musulman intelligent. C'est un, il fait ses bonnes actions de cette manière. Deux, je m'éloigne de tout ce qui est haram. Parce que comme on a dit, on ne pourra jamais devenir muttaqi si on fait toutes les bonnes actions, mais en même temps, on ne recule pas devant le haram. J'abandonne le haram, pourquoi? Parce que je sais que cela provoque la colère d'Allah. J'abandonne le haram, pourquoi? Pas parce qu'on est dans le mois de Ramadan, il faut respecter Ramadan. Pas parce qu'on est dans le Hijja, on doit respecter le Hijja. J'abandonne le haram parce que cela provoque la colère d'Allah. J'abandonne le haram parce qu'il y a des témoins. Mon corps témoignera contre moi le jour du Qiyama. Les anges témoigneront contre moi le jour du Qiyama. Tout est inscrit dans mon livret. Si le musulman il intègre ça, il ne peut plus désobéir à Allah Ta'ala. Hadith, on n'a plus le temps de dire les hadiths. Allah Ta'ala choisira un homme de la communauté du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, viens, il a dit, regarde les actions que tu as faites, des actions qui seront jusqu'à perdre de la vue, l'horizon. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne reconnais pas? Il dira, non Allah, j'ai fait tout ça, bonne comme mauvaise. Est-ce que ceux qui inscrivaient les actions, ils ont menti ou ils se sont trompés? Il dira, oh Allah, tout ce qui est inscrit, je l'ai fait réellement. Et dernière question, afalaka udhrun, tu as une excuse pour le dimanche que tu n'as pas fait Fajr? Tu as une excuse pour tel péché, pour tel péché? Fayaqulu la ya Rabbi, dira non oh Allah. C'est pour ça que je m'éloigne du haram. Pas parce qu'on est dans une grande nuit ou une grande période, parce que je sais qu'Allah me questionnera sur chacun de ces harams. Le musulman intelligent, en 2 minutes, celui qui fait, il se fait du souci pour son iman. Celui qui vit dans l'insouciance, qui ne se fait pas du souci, demain Malik al-Maut prend mon âme, comment il prend mon âme? Ce musulman-là, c'est un rafil, il est insouciant, il n'a pas la crainte d'Allah dans son cœur. Allah a dit un hadith que je ne donne pas un serviteur de tranquillité. Si dans ce monde il est tranquille, il n'a pas peur de moi le jour du Qiyamah, alors si dans ce monde il est tranquille, le jour du Qiyamah il aura peur. Et de la même manière, si quelqu'un de ce dunya à la crainte d'Allah, le jour de Qiyama, Inch'Allah, cette personne fera partie des aminines, des gens qui seront apaisés le jour de Qiyama. Un musulman qui est intelligent, qui a la clairvoyance, c'est celui qui a le cœur relié à Allah. Regardez, dernier hadith, on va terminer. Lorsque le prophète parle avec un enfant, Ibn Abbas, est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, fais la salat, apprends le Coran par cœur, deviens qari, etc. Non, ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajhid tujahak. Il dit quoi? Oh mon enfant, oh mon fils, respecte les ordres d'Allah, Allah te protège. Oh mon fils, respecte les ordres d'Allah, éloigne-toi de tout ce qu'Allah a rendu haram et Allah sera toujours avec toi. Oh mon fils, tu as besoin de quelque chose? Demande à Allah. Oh mon fils, tu as besoin d'aide? Retourne vers Allah. Un enfant ou un adulte dont le cœur est en permanence avec Allah, comment il désobéira à Allah? Nous, on a mis la charrue avant les bœufs. On a compris qu'il faut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas compris l'âme des actions, le véritable iman. Je suis soumis à Allah. Et ma soumission à Allah, c'est quand? Depuis que je suis baligh jusqu'à ce que l'ange de la mort reprenne mon âme. Ça, c'est le sens profond de al-istislam ou lillahi subhanahu wa ta'ala. Et avec ça, j'agis correctement avec ma femme, mes enfants. Qu'est-ce qu'il y a? Quel intérêt d'avoir une grande barbe, d'être régulier dans la namaz, si chez moi, je suis un goujat avec ma femme? Si dans ma relation avec la société, je suis un homme craint parce que j'ai un mauvais comportement, si je ne me fais pas du souci, quel intérêt d'être régulier dans ces 5 salades, si je ne me pose même pas des questions samedi soir, où va mon fils? Pourquoi est-ce que mon garçon ou ma fille rentre à 2h du matin? On peut faire tourner 1000 tasbih, on peut réguler tahajjud, je n'ai pas respecté kullukum ra'un wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Question qui nous sera posée le jour de la hisab, du compte, qu'est-ce que vous avez fait de la responsabilité? Est-ce que tu as amené ta femme comme Allah l'a demandé? Est-ce que tu as donné à tes enfants l'éducation qu'Allah t'a demandé? Mes chers frères, c'était là quelques aspects du sens global. Il faut arrêter d'aller en profondeur, dans les détails, mais peaufiner les actes d'adoration. Il faut avoir une vision d'ensemble. Si j'ai compris c'est quoi taqwa Allah, si j'ai compris c'est quoi craindre Allah, si j'ai compris que tout être humain retourne vers Allah, et chaque seconde de ma vie j'aurai à rendre des comptes, jamais je n'abandonne pas un namaz pour mon travail. Jamais je n'abandonne une salat pour un rendez-vous. Jamais je ne manquerai de respect envers mes parents pour aller vers quelqu'un d'autre. Mes chers frères, qu'Allah me donne à moi en premier, parce que moi, personne n'a ces qualités réellement comme les Sahaba, qu'Allah nous donne la compréhension de ses paroles et qu'Allah fasse entrer la réalité de la foi, haqiqatut taqwa, la réalité de la soumission à Allah dans le cœur de chaque musulman et qu'Allah nous accorde le paradis par sa pitié. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.